L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
aussi pauvres que les pauvres, et pour vivre là-bas, ils seront obligés de prendre le travail qu'on leur offrira, même celui de manœuvre ou autre. Ceux qui auront des métiers, diplômes, donc, on en aura besoin sur la Lune et l'autre planète. Ils s'en sortiront, mais les autres, rien. Pour le moment, ils ne pensent pas à ça. Ils s'imaginent ceux qui sont monsieur ou madame machin. On va les recevoir comme des rois ou reines. Ils vont bien vite désenchanter. Pas de privilèges pour ces gens. On n'a besoin que de bras. Lorsqu'ils apprennent qu'ils doivent laisser leur argent et leurs biens sur Terre, ils pensent qu'ils pourront revenir et que c'est l'État qui va garder leur argent et leurs biens. Mais pas de billets de retour. Cette affaire est une escroquerie. L'État va se remplir les coffres. Le niveau de la Seine diminue. Le nouveau lit de la Seine se fait à grande vitesse et à Paris, on voit déjà le niveau de la Seine bien diminuer. Les Parisiens sont tristes. La Seine depuis toujours fait partie de l'histoire de Paris. Avant Paris, ce n'était que l'île Saint-Louis. Ils vont sur les quais des berges de la Seine, tristement. Au fur et à mesure que l'eau diminue, ce son de plus en plus mauvais. L'eau devient trouble, terreuse. On voit apparaître des branches, des troncs d'arbres, des détritus, des voitures. De temps en temps, un cadavre apparaît qui était resté accroché sous l'eau par des branchages ou l'autre. La police vient les prendre pour les brûler. Gilles et Henri regardent la Seine et disent « C'est dommage que ce ne soit pas la saison des pluies. Comme ça, le lit s'en remplirait d'eau de pluie. » Mais là, la chaleur aide à descendre encore plus l'eau. Les Parisiens sont furieux et tristes. Les bateaux péniches ne pourront plus naviguer, même ceux qui amènent des marchandises. Le gouvernement dit aux bateliers qu'ils auront du travail avec la nouvelle cité. Et même, ils trouveront des lieux de plaisir. La ville, c'est un espace de dévergondage. La France a trois grands chantiers, celui de l'espace et les deux cités à construire. Ceci donne beaucoup d'emplois, mais il y a tellement de malheureux que la main-d'œuvre ne manque pas. Et puis il faut surtout des gens spécialisés. Pour ça, l'école d'ingénieurs d'État en fournit. Les gens sont très peu payés, mais on leur promet un avenir radieux. La construction de plusieurs navettes spatiales qui servira de transport pour transporter des pièces détachées, machines, hommes, et La fabrication se fera à la chaîne. On a trouvé un acier très résistant et souple pour faire les pièces détachées. Un mélange d'acier et de fibres de verre. Les usines pour l'aéronautique ont été transportées à Toulouse. On prépare les hommes pour les hommes une super navette qui pourra avoir la capacité de 1000 personnes avec tout ce qu'il faut pour le voyage. Cette navette servira de vaisseau de l'espace. Plus la peine qu'elle soit propulsée par une fusée. Elle se propulsera elle-même de la Terre à la Lune et vers d'autres planètes. Elle atterrira comme un avion en douceur. Pendant que l'on s'affaire à construire les navettes et tout ce dont on a besoin pour là-haut, l'on forme les pilotes, l'équipage et même les personnes que l'on doit amener. On leur apprend à manœuvrer les appareils pour les piloter. On leur fait faire des stages d'apesanteur, etc. Les vaisseaux spatiaux pour amener les gens auront des cabines où les gens pourront dormir, cabines seules ou à plusieurs, avec baignoire ou douche. Des salles de détente, de gym, cinéma, salles de conférence, ou même durant le voyage, on leur présentera ce qu'ils auront à faire une fois allumés. Des salles où 100 personnes pourront être assises. Une cabine par cabine. Bien sûr, il y aura bar, restaurant et cuisine. Vêtements spatiaux. On ne souffrira pas de l'apesanteur parce que ce sera bien fermé. Les autres pays apprennent le projet de coloniser la Lune et une autre planète par la France. Cela crée des jalousies et l'on en parle à l'ONU. La France devient une superpuissance, mais elle n'a pas le droit de coloniser les autres planètes sans les autres. Les planètes appartiennent à tous. Les Américains, Chinois, Russes, etc. sont furieux. Le représentant de la France leur dit que c'est celui qui arrive le premier qui est propriétaire, comme ça s'est toujours fait. On lui demande s'il y a des êtres vivants sur ces planètes. Il leur dit: la Lune, vous savez bien que non, mais l'autre, on ne sait pas encore. Et puis, ils s'accommoderont de nous. puisqu'on va habiter chez eux. » L'Américain lui dit, « Puisque vous dites que celui qui atterrit le premier doit... Ils doivent leur appartenir à la planète. Nous, nous avons été les premiers à atterrir sur la Lune. Donc, elle est à nous. » Le Français lui dit. Non, pourquoi? Vous ne l'avez pas colonisée. Vous avez simplement atterri et rien d'autre. C'est comme une terre abandonnée. Nous, nous allons la coloniser. L'Américain lui dit. Pour vous, juste pour vous, le Français lui dit, laissez la France libre de faire ce qu'elle veut et le monde ira mieux grâce à elle. Vous, Américains, c'est dépassé, vous êtes dépassé. De toute façon, vous aurez beau nous l'interdire, cela ne nous empêchera pas de faire ce que l'on décide. L'Américain lui dit, sera la guerre. Le Français lui dit, vous ne pensez qu'à la guerre, vous. Vous êtes déjà... Vous avez déjà des guerres en Arabie, Afrique, cela ne vous suffit pas. Vous vous battez en Afrique, pourquoi? Il n'y a plus rien. Que du sable et des gens qui meurent. Alors laissez la France accomplir son projet. Et puis, ils finissent par se dire, voyons comment les choses vont se faire, comment on peut coloniser des planètes. Ça peut être utile. Se lancer dans un projet comme ça, que personne n'a fait, ça coûte cher. C'est très cher. Alors qu'on les laisse avec ces deux planètes, après, il nous suffira de les imiter. Sans faire de recherche pour savoir comment faire, etc. Il y a tellement de planètes, il y en a pour tous. Oui, mais ils oublient, c'est que la France va coloniser une planète qui a de l'oxygène et de l'eau, et que ça, c'est très rare. Ce projet fait oublier aux autres pays la dégradation morale de la France, le côté sadique du roi. Ils le voient à cause de ce projet comme un grand homme. Et l'on finit par se dire qu'on l'a mal jugé, ou que ce sont les Français de juger son roi et pas les autres pays qui l'ont dénigré. On dit qu'un homme qui a de si grands projets ne peut être un débauché sadique qui joue avec son peuple. Ce doit être des communistes ou anarchistes qui font circuler tout ça. Alors les autres pays font des courbettes au roi et à la France. Il l'invite chez eux. Le roi y va avec toute une équipe qui pour proposer armes, ça se vend bien, et des produits issus de la recherche aéronautique, comme ces pièces détachées en acier de fibres de verre. On lui propose des ponts, usines, casernes, immeubles détachés et, ou en construction comme des mécanos. rêvé français et l'alunage spatial est secrète. On peut vous avoir comme ça. Et prendre votre âme aussi de cette façon-là. La France est à la pointe de la modernité. Ça ne se voit pas en France, où le peuple est toujours aussi pauvre, malgré l'emploi de tout ce qui cause, que causent toutes ces choses. Mais la plupart de ces usines sont automatiques. Automatisé à fond, même pour la création de l'aluminage. Là, on fait fabriquer des robots, de grands et de petits robots. Le tout est commandé par un central, comme une régie, avec table de mixage pour chaque robot. Écran et tout. Les gens sont au central. L'ingénieur en chemise blanche, il travaille de la fabrication, de la fonte de l'acier au montage. À l'élaboration, mis sur les quais, déposé dans le train de marchandises, car chaque usine a son train, qui rentre à l'intérieur de l'usine. Le train roule automatiquement, télécommandé sans personne. La marchandise arrive à destination, magasin ou une autre usine de fabrication. Puis reprend le train jusqu'à la livraison. Donc la France a beaucoup de travail, mais ne donne pas de travail aux gens. Elle donne plutôt du travail aux robots. On préfère, c'est donner du travail à une machine qu'à une main. C'est plus efficace, ça ne fait pas grève et ça marche 24 heures sur 24. Les bénéfices de tout ça, il va savoir le gouvernement, parce que les entreprises sont à lui. La bourse monte, les étrangers investissent en France. Plus la bourse monte, plus il y a de miséreux. En France, on sait moins ce qui se passe en France qu'à l'étranger, parce qu'en France, les gens sont si malheureux qu'ils n'ont pas le temps de penser à tout ça. Donc la France est un pays florissant dans le monde entier, sauf en France. Gilles fait toujours des petits boulots et sur de temps en temps voir les chantiers. Je sais trop comment faire pour entrer dans cette cité et en sortir Pierre. Et où le trouver au milieu de tout ça? Georges et lui se demandent, vu que le roi est bien apprécié en dehors de la France, si c'est une bonne chose de s'attaquer à lui, parce que s'ils échouent, ils vont être très mal jugés à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Il faudrait peut-être mieux attendre un peu. Mais plus l'on attend, plus c'est difficile d'agir, parce que la cité sera plus grande et sera plus gardée, plus protégée, avec des murs, etc. Alors quoi faire? Les compagnons de Jéhu essayent de voir ce qu'il faut qu'ils fassent pour entrer dans la cité et comment en sortir avec le roi. Ils voient, d'après les plans, qu'il y a en réalité deux cités, c'est-à-dire une souterraine. Ils pourraient rentrer dans la cité souterraine en nageant dans le fleuve et ensuite, sans passer par la surface, passer par la cité du bas. Et là, il y a des sorties même pour aller dans le palais. La chose peut se faire avec des scaphandres et des outils pour couper les barbelés et les barreaux. Le plus dur, ce sera de couper les barreaux. Et une fois à la surface, de s'habiller en civil. Donc il faudra avoir un sac à transporter pour transporter ses vêtements. Beaucoup de complications, mais faisables. Alors, on entraîne une équipe pour travailler sous l'eau. C'est ce qui se fait. Oui, mais Gilles n'y sera pas. Tant pis. Ou, on le transportera entouré de gens qui le tiendront et le guideront. On commence à faire des équipes qui s'entraînent sous l'eau dans la Seine en dehors de Paris. L'ingénieur à qui on a volé les plans pense à modifier les plans de travail et pour la sécurité, mais il a peur. Il a peur qu'on lui demande pourquoi il fait ça. Et ça crée des soupçons. Mais il va tout de même renforcer un peu la chose avec intelligence. Les jours passent. Gilles vit comme il peut. De temps en temps, il va voir Armance avec Henri pour passer un moment ensemble. Il leur amène des fruits et des légumes de ce qu'on lui donne. Oui. Il lui amène des fruits et des légumes de ce qu'on lui donne. Elle lui dit, « Tu ferais mieux d'y garder pour toi. » Il lui répond, « On m'en donne assez. Et puis, si je te la donne, c'est pour qu'on la mange ensemble. Comme ça, je pourrais manger de la bonne cuisine. » Elle lui dit, « Tu parles d'une bonne cuisine, je ne fais que cuire les choses, c'est tout. Il lui dit, c'est tout de même mieux que moi. Demande à Henri ce que je fais comme cuisine. Henri lui dit, c'est pas très appétissant. Et ils rient tous. Elle fait la cuisine, ils mangent de bon appétit. Elle leur dit, dans notre manoir, nous avons tout de même de la chance, c'est d'être ensemble. Ensemble, on est plus fort. Je lui dis, oui, tu as raison. J'aimerais bien, c'est pouvoir retrouver Pierre. Elle lui dit, n'y pense plus. Pierre est perdu pour toi. Je lui dis, non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle lui dit, la vie nous est comptée. La terre, c'est du sable ou de l'eau. Je lui dis, l'eau et le sable. On peut faire des choses qui ressemblent à de la glaise. Elle lui dit, ça ne donne pas à manger. Il lui dit, oui, mais l'on peut bâtir. Bâtir? Des châteaux de sable? C'est de la folie, dit-elle. Peut-être pas. Elle lui dit, au lieu de rêver, mangez donc. Avec tes idées, tu empêches les gens de manger. Regarde, Henri, il dévore des yeux la nourriture. Et puis, tu nous fais peur avec tes folies. Henri rit. Malgré que Gilles ne croit pas qu'il soit le frère de Jean-François, il y pense et ça le dégoûte, puisqu'il sait que Jean-François attire les gens pour leur prendre leur âme, leur côté sombre. Oui. Il prend leur âme, leur côté sombre. Il leur enlève tout ce qui est bon en eux, en ouvrant leur côté sombre, c'est-à-dire leur laisser aller leur égoïsme. Il lui arrive de rêver la nuit. Et il rêve d'une lutte entre Jean-François et lui. Il a l'impression qu'il lutte avec lui-même, avec son côté obscur. C'est une lutte terrible, à mort. Tantôt, il a l'impression que c'est lui qui gagne, tantôt, c'est son contraire. Mais juste où il va savoir, il se réveille d'un coup, amer, anxieux. De ses cauchemars, il en reste toujours quelque chose. Il se sent mal. Il prie pour que ce ne soit pas vrai. Mais quelquefois, que ça l'est peut-être. Il pense que c'est peut-être vrai. Les gens continuent à se laisser aller et se dégradent, surtout la nuit. Les gens se défoulent parce que la journée fait trop chaud. Lui, Gilles, il continue à dire sa messe avec Henri. La plupart des gens n'étudient pas, se laissent aller. Ils se défoulent comme des sauvages, boivent de l'alcool, écoutent leur musique, si on peut appeler ça de la musique. Ont des rapports sexuels faciles sans sentiment, où l'autre n'est qu'un objet. C'est aussi se défouler en créant des émeutes. Il crée des émeutes pour rien comme ça. Ils aiment aussi torturer ceux qui sont trop vieux, plus vieux qu'eux. Les écoles, l'université sont devenues des squats. On les laisse faire. Bien au contraire, plus ils se dégradent, mieux c'est. Comme la plupart, ils n'ont pas d'argent, alors ils volent dans les magasins de la boisson, de la bouffe, genre gâteau, sec, des appareils hi-fi et des fringues. Pourtant, leur mode, c'est de s'habiller en dégueulasse, même déchiré. Les cheveux, on ne les lave plus. Ils se mélangent entre eux et font des sortes de nattes sans forme et dégueulasses. On laisse pousser les cheveux. Ils se coiffent, si l'on peut appeler ça une coiffure, comme les primitifs des savanes ou forêts vierges. D'ailleurs, tout ce qu'ils aiment a un côté primitif. Leur musique qu'ils écoutent, leur squat qui ressemble à une vie de brousse dégueulasse, leurs habits qui sont occidentales, mais revues par les primitifs. Tout ça, c'est un retour en arrière. Là aussi, c'est dû au laisser-aller. C'est plus simple de devenir primitif que d'être civilisé. La civilisation demande beaucoup d'efforts. Là, ils suivent leur instinct. Leur culture est nulle. Ne lisent pas, et d'ailleurs savent à peine lire, ne comptent pas. Ont une connaissance générale nulle. Tout ce qui n'intéresse pas les jeunes, ils le rejettent. Un enfant de 10 ans des années 1960 a une culture plus grande qu'un jeune de 24 ans de maintenant. Et puis ils ont fait leur scolarité. Lorsqu'ils l'ont fait, en s'intéressant qu'à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire peu de choses. Parce que ce qui intéresse un jeune, c'est le sexe, toujours le sexe, leur musique qu'ils appellent musique, et rigoler en faisant n'importe quoi. Et quelquefois, ce n'importe quoi peut être dangereux pour eux ou les autres. En jouant à tabasser les autres jeunes gens, etc. Mais il y a des personnes très rares, vraiment très rares, qui étudient et se comportent bien. Ce tout petit nombre devient les servants de la France et le cerveau de la France. Les ingénieurs comme ceux qui préparent le projet de l'espace ou de la ville. Jean-François les laisse faire parce qu'il sait qu'il a besoin d'eux. Il sait qu'il ne doit pas les dégrader, qu'un cerveau doit rester lucide. Mais il en a peur. très vite on les reconnaît, habillés proprement, timides. Ils ne se mélangent pas aux autres, bossent. On se moque d'eux, mais c'est eux qui sortent de l'enfer. Jean-François se sert d'eux parce qu'il en a besoin, mais ne les aime pas parce qu'il ne peut rien contre eux. Ils sont imperméables au laisser-aller général. L'ingénieur à qui l'on a pris ses dossiers a l'esprit de famille. Il a plus l'esprit de famille que les autres. Parce que timide, il n'a pas eu d'aventure sexuelle à part avec sa femme, qui lui suffit à ses besoins. Il a toujours peur qu'on lui apprenne ce qu'on lui a fait. Parce que donner les plans de la ville, il risque la mort. Oui, il risque la mort. Pierre est toujours dans la cité. Il travaille dur à creuser des trous pour les fondements des immeubles. Il est fatigué, mange peu. Il mange une espèce de bouillie infecte. Il a très chaud, la poussière. Ça sent mauvais aussi. Ce qui fait qu'il tousse beaucoup. La nuit, il réveille tout le monde en toussant. On lui crie de laisser dormir les autres. Il aimerait s'en aller, mais ne sait comment. Il se dit qu'il devrait s'en aller seul, c'est plus simple, et l'on risque moins de se faire remarquer. Réfléchis. Vois les camions apporter les marchandises et repartir. En emmenant leur grabat de santé, se dit que peut-être il pourrait sortir de cette façon. Il décide d'essayer. Le matin, on le réveille à 4 heures du matin. On les réveille à 4 heures du matin. Il fait encore nuit. Après leur bouillie, on les met en rang jusqu'à leur lieu de travail. Le parcours est assez long parce qu'il faut parcourir une partie du chantier. Ils vont remplacer ceux qui travaillent encore. Ils partent en rond. Il y a des lampes qui les éclairent sur les miradors. Pierre, d'un coup, d'un bond, se cache dans un renfoncement. Les oranges sont tellement serrées qu'on ne peut le voir. Même ses collègues d'infortune ne le remarquent pas. Pas bien réveillé et déjà fatigué. Une fois dans le renfoncement sombre, qui est un renforcement d'un immeuble en construction. Pierre a très peur d'être pris. Il marche à quatre pattes. À ras du sol et en suivant les immeubles pour être dans le noir. Il doit faire vite parce qu'une fois que le poste de travail, il va, on va voir qu'il manque quelqu'un, on va donner l'alerte. Avec les chiens et les hommes en armes. Ils vont éclairer tout le chantier. Il est arrivé vers le quai de déchargement et de chargement du camion. Il y a déjà des camions qui sont chargés de grabats. Les gardes les surveillent. Pierre. En faisant bien attention, va jusque sous un camion avec ses deux mains et ses jambes s'agrippe aux barres des roues. Il se tient bien dessous le camion. Il a hâte que le camion s'en aille avant que les autres arrivent au poste de travail. Parce qu'il risque, c'est de fermer le chantier et interdire les camions de sortir. Il entend enfin le camion se mettre en route. Il se tient bien. Le camion file. Et s'est arrêté. Des gardes vérifient le contenu. Pierre a peur. C'est qu'il regarde sous le camion, mais non. Il entend le camion se remettre en route. Il a à peine fait quelques mètres que Pierre entend les sirènes retentir. Ça doit être pour lui. Mais le camion continue à rouler. C'est difficile à Pierre de se maintenir comme ça. Mais il veut y arriver. Après un moment, le camion s'arrête. Ça sent mauvais. Ce doit être la décharge. Il sent que l'on soulève pour faire tomber les grabats. Vite, Pierre sort de dessous le camion, se laisse rouler et se cache derrière une broussaille. Il voit qu'il y a plein de camions qui déchargent et décide d'attendre. Les camions qui s'en vont. Il se dit qu'il doit bien y avoir un moment où il sera seul. Son camion s'en va. Il vient de partir. Il se dit qu'il aurait dû. C'est partir avec lui que peut-être il le mènerait à Paris. Et puis il se dit que non. Il doit rechercher des grabats sur la ville, dans la ville. Et la ville est bien gardée. Il se trouve un coin isolé des autres camions. Les autres camions sont plus loin. Alors en rampant, il décide de partir. Il s'éloigne. A trouvé un chemin, décide de le prendre. Essoufflé, seul, sentant mauvais, avec des vêtements du chantier, il risque de se faire prendre. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.